Ma jeunesse s'est composée d'école, d'équitation et d'embrouilles avec mes parents. De Shetland à Poney Bay, j'ai enchaîné les obstacles comme les chutes, mais vous connaissez le dicton, on remonte toujours en selle. Je suis Laetitia et bienvenue dans mon podcast Chill Talking and Reading, où l'on voyage de page en page ou d'écriture en écriture à la découverte des genres littéraires et des fois même des auteurs. Romance, fiction, fantasy, poésie, polar ou grand classique, j'espère que tu es prêt pour l'aventure. Installe-toi parce que ça commence maintenant. Clara est brillante et idéaliste. Elle écrit des poésies, des chansons et rêve d'un monde meilleur. Diego, lui, préfère le surf aux études et charme les premières de la classe. Elle quitte le nord de la France pour un échange universitaire au Brésil. Lui vit entre les favelas de Copacabana et les plages de Leblon. Ils n'auraient jamais dû se croiser. Et pourtant, un coup de foudre, un amour hors norme, un rêve de paradis. Mais derrière les rêves d'aventure et de découverte se cachent des descentes aux enfers. Comment survivre quand tout s'effondre, plusieurs fois, quand l'amour devient une prison, quand l'espoir vacille entre la vie et la mort? Ça donne envie, hein? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra pour un épisode bonus qui vient de publier son livre. On s'était dit rendez-vous au paradis, c'est ça? J'ai pas fait d'erreur?
Voilà, allez, voilà, c'est ça Laetitia.
Du coup, un livre qui parle de rêve, de déconstruction et de reconstruction. Telle une aventure en équitation, on tombe mais on se relève toujours. On va plonger du coup ensemble dans les coulisses de son écriture et de découvrir ce qui se cache du coup derrière ce titre si poétique.
On s'était dit rendez-vous au paradis.
Yes! Du coup, comment est née l'idée de ce roman? As-tu puisé dans tes expériences personnelles pour écrire justement cette histoire?
Alors tout d'abord, Laetitia, merci de m'avoir invitée à ton podcast. Je suis ravie de participer. Effectivement, depuis très jeune, j'écris. Mais j'écris surtout des textes courts, des poésies en particulier. Et je rêvais depuis toujours d'écrire la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Et du coup, pour pouvoir écrire cette histoire, il a fallu vivre. Et donc j'ai cette envie d'écrire sur une histoire d'amour depuis ma plus tendre enfance.
Et du coup, c'est comme ça qu'est née un peu l'idée. Tu l'as vécu et après tu t'es dit, go l'écrire quoi.
Malheureusement, l'histoire que j'ai vécue était pour moi au début la plus belle histoire d'amour de tous les temps, mais elle a viré au vinaigre, on va dire. Les choses sont devenues folles et se sont pas du tout passées comme je l'aurais imaginé. Et du coup, je fais un petit peu cette blague, c'est que je voulais écrire la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Et en fait, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre parce que j'étais révoltée, parce que j'étais en colère, parce que je souffrais. Et j'avais vécu tout sauf la plus belle amour de tous les temps. Et du coup, j'ai voulu faire un livre unique, un livre qui me ressemble, un livre 100% inspiré de la jeune fille que j'ai été, même de l'enfant que j'ai été, de ses rêves et de finalement de la vraie histoire qui s'est passée. Et donc, j'ai gardé longtemps ce livre, je l'ai construit au fil de ma vie pendant plus de 20 ans de voyage dans de nombreux pays.
Ouais, top. Du coup, on peut dire que c'est 100% d'expérience personnelle que tu as puisé ce livre.
Effectivement, j'aimerais vouloir dire que cette expérience a été inventée, mais c'était un livre effectivement qui retrace les rêves, mes rêves de jeunesse, puis d'adulte, mes succès et les drames qui ont traversé ma vie.
Ok, et du coup, pourquoi ce titre si fort et évocateur?
Pourquoi on s'était dit rendez-vous au paradis? Parce qu'effectivement, moi depuis très jeune, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis d'origine portugaise, mon père est venu vivre en France, il avait à peine 11 ans et on sortait très peu finalement de chez moi, je voyageais très peu et je n'aimais pas le froid et la pluie de ma région des Hauts-de-France dans laquelle j'étais née et je m'inventais toujours un paradis. Je pensais qu'il existait sur cette terre forcément un endroit merveilleux où il n'y aurait ni les problèmes de société, ni le mauvais temps, où on pourrait vivre tous en harmonie. Et donc du coup, j'ai créé tout un parcours de vie dès mes 16 ans où je disais partir à la recherche de mon paradis. Et quand j'ai rencontré mon bel amour, mon prince charmant, à Rio de Janeiro, à peine 24 ans, tout de suite, ce qu'on s'est proposé, c'était de partir ensemble à la recherche du paradis. Et c'est vrai que Rio ressemblait déjà à un petit paradis. Et je me disais que le paradis ne devait pas être si loin. Et je voulais que tous mes amis aussi me rejoignent un jour dans ce paradis et qu'on vive au monde des bisounours, d'amour et d'eau fraîche et d'amitié.
Du coup, on peut dire que c'est un peu ce sentiment d'idéalisation ou de rêve qui a fait naître un peu l'écriture ou même pas, quelle émotion particulière a déclenché du coup l'écriture de ce livre ?
Non, je suis une personne pleine d'émotions.
Ok, émotive.
Voilà, émotive, voilà. Je suis une personne très émotive, déjà. J'écris des poésies depuis l'âge de 7 ans. C'est quelque chose qui me vient toujours d'un seul coup. Ça me vient n'importe où, d'ailleurs, souvent au réveil. Mais ça peut être au milieu d'une conversation, au milieu d'une réunion, à l'époque en salle de classe. Mais il n'y avait jamais eu l'inspiration d'écrire vraiment une histoire longue.
D'accord.
Sauf qu'effectivement, le problème, c'est qu'à l'issue de cette longue et parfois douloureuse histoire, j'ai vécu plusieurs traumatismes.
Oui.
Et en fait, moi qui suis très positive, très résiliente, beaucoup dans l'autothérapie, je me répétais quand même beaucoup de choses en boucle. Et dans le livre, d'ailleurs, je commence à aborder cette partie de l'autothérapie. C'est-à-dire que je trouve dans l'écriture une autothérapie.
D'accord.
C'est-à-dire que comme j'ai du mal à parler aux autres, j'écris dans la poésie, mais j'écris des épisodes sur des thèmes graves qui m'atteignent. Et du coup, il y a eu plusieurs choses qui m'ont fait commencer à écrire. C'est que non seulement les mots résonnaient de plus en plus fort et en boucle dans ma tête, et j'avais vraiment besoin de...
D'extérioriser.
Pas d'extérioriser une histoire, mais toute une histoire, et de manière cohérente. Et j'avais besoin aussi, dans ma démarche d'autothérapie, de remettre une échelle de gravité dans ce qui m'était arrivé et une chronologie. Et du coup, le travail de l'écriture a été pour moi important parce que ça m'a permis de remettre une chronologie dans cette histoire et aussi de pouvoir petit à petit m'en détacher, prendre du recul. Et aussi, il y avait une autre chose, c'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de m'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois que le pire, c'était même pas les questions des gens, c'était les gens qui me regardaient sans me poser de questions mais avec les yeux interrogatifs. Et du coup, moi, j'avais aussi la pudeur d'en parler, la pudeur de répondre. Et comme c'était une histoire assez complexe, et que quand je commençais à la raconter, les gens ne voulaient plus que je m'arrête, et que ça partait pour 3 heures, je me suis dit, bon, ben, je vais l'écrire. Et je voulais faire le lien aussi entre toutes ces poésies, tous ces textes que j'avais écrits. Donc au début, j'ai voulu en faire une pièce de théâtre, et puis après, quand je me suis mise aussi à chanter, j'ai voulu en faire une comédie musicale. Et puis finalement, je me suis dit, pour que les gens puissent vraiment comprendre l'histoire, la vivre, qu'elle soit utile pour les autres, il faut que je l'écrive en entier. Donc du coup, là, je me suis mise à écrire le roman.
Mais après, tu auras toujours le temps de l'adapter en pièce de théâtre ou en comédie musicale. Par exemple, j'avais lu « C'est changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin. Et de base, c'est un livre. Et ensuite, j'ai pu aller voir la pièce de théâtre. Donc tu peux toujours transformer ton œuvre de mille et une façons. Je suis assez d'accord avec toi que l'écriture a un côté un peu exutoire. C'est comme quand on est jeune, on a notre journal intime, on met toutes nos pensées, etc. Et une fois qu'on referme les pages et avec les mots qu'on a pu écrire, je trouve qu'il y a quand même un sentiment de soulagement qui en ressort. Donc vous pouvez écrire pour vous, c'est ce que je vous conseille. Ou sinon vous pouvez écrire comme Alexandra et peut-être être publié, qui sait ? Quel message aimerais-tu que le lecteur emporte avec lui, justement, en refermant ton livre ?
Alors, effectivement, j'ai écrit ce message avec plusieurs objectifs, de passer des messages importants. Je l'ai tout d'abord écrit pour les jeunes, pour les jeunes femmes. Je repense toujours à la jeune femme que j'ai été. Et du coup, il y a un message, effectivement, de prudence. La violence contre les femmes est omniprésente. J'aborde à la fois la violence gratuite d'inconnus que j'ai vécue à Paris, quand j'étais jeune, quand j'étais en classe préparatoire. Et j'aborde aussi la violence conjugale. Et plus que la violence conjugale, aussi la violence conjugale à l'étranger, dans un contexte d'expatriation. Donc j'aborde effectivement tout ce qu'il y a de positif sur l'expatriation. Donc c'est un livre qui incite au voyage, à l'ouverture culturelle, où on m'a dit qu'on apprend quand même beaucoup de choses sur beaucoup de pays, mais qui incite aussi à la prudence, les revers de l'expatriation, de n'importe quel expatrié. Parce qu'effectivement, l'éloignement des autres, l'éloignement de l'autre, culture différente, des lois différentes, mais aussi du coup la violence loin, à l'étranger, et effectivement aussi les risques aussi qu'il peut y avoir d'engager une relation longue et d'avoir des enfants avec une personne qui vient du bout du monde, et en particulier quand on se dit citoyen du monde, quand notre mode de vie c'est d'être multi-expatrié, d'aller travailler, voyager de pays en pays, ben effectivement vous avez des enfants. Si vous n'allez pas dans le même pays, vous n'allez pas pouvoir continuer votre mission de vie. Donc ça, c'est quelque chose d'important que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune. Mais je suis aussi avant tout une personne quand même très positive. Et ce que je voudrais qu'on garde comme message après la lecture de ce livre, ce serait quand même un message d'espoir, de force, de résilience. Je voudrais qu'on apprenne à ne pas juger les personnes par les drames qu'ils ont vécus, mais de comment ils ont surmonté les obstacles, comment ils ont gardé la tête haute face à la difficulté, et de comment l'héroïne réussit à toujours transformer la douleur et la colère en énergie positive et créatrice. Et voilà, et c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent, qu'ils ne retiennent pas juste un message de victimisation autour de la violence, qui n'est absolument pas l'objectif du livre, mais au contraire un message de courage et de force, et que parfois certains drames difficiles à expliquer peuvent aussi arriver à des personnes fortes, et en fait c'est parce qu'elles sont fortes que ça leur arrive.
Oui.
et dans la violence conjugale, même si on en parle beaucoup, encore énormément de préjugés, et c'est aussi pour, je parlais du regard des autres tout à l'heure, c'était par rapport à ce que je ressentais dans le regard des autres et qui ne voulaient pas expliciter, que j'ai écrit ce livre pour qu'ils puissent comprendre comment la vie des fois peut se transformer en piège, et comment une personne en fait gentille, forte et pleine de bons sentiments peut avoir une démarche constructive, et dans cette démarche constructive se retrouverait ensevelie. Et donc du coup, ne jamais dire que ça ne m'arrive qu'aux autres. Tout peut arriver à tout le monde, mais ce qui est important, voilà, c'est d'avoir le courage d'analyser ce qui t'est arrivé, d'en tirer les bonnes leçons justement pour aider les autres, ou à le comprendre, ou à le surmonter, ou à l'éviter.
Oui, non, c'est sûr, parce que la violence conjugale, c'est très compliqué, surtout une fois qu'on est dedans, pour s'en sortir, etc. Parce que, comme Alexandra l'a expliqué, il y a le jugement, il y a aussi toute la partie psychologique derrière qui est quand même très présente. Et souvent, il faut à ces femmes-là un déclic et une force énorme pour pouvoir s'en sortir. Et justement, ce livre qui aborde ce thème et qui montre ta propre expérience et comment toi, tu as pu réussir à s'en sortir, j'espère que ça pourra aider plein d'autres femmes qui sont dans des situations pareilles ou même un peu différentes, mais qui peuvent justement trouver une voie en toi.
Et justement, dans la plupart des ouvrages, on parle que de cette dimension psychologique. Et moi, j'aborde aussi le fait qu'une fois que la dimension psychologique est surmontée, et il y a tous les vrais problèmes de la vie, le hasard, le mauvais destin. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de retours positifs sur mon livre. C'est quand même un livre plein de rebondissements, en fait. Et en fait, c'est un livre, moi je dirais plutôt d'aventure, et dans lequel on va alterner entre succès, espoir et drame. Et malheureusement, le drame revient souvent. Mais j'aimerais aussi que les gens retiennent les succès et les joies qui sont dans le livre.
Ok, et du coup, tu dirais que c'est un récit qui console, questionne, qui apaise, ou un peu tout ça?
Je dirais un peu tout ça. Souvent, les personnes me disent « j'ai du mal à décrire le livre » parce qu'effectivement, on rit, on pleure, on se réjouit, on pleure à nouveau, puis après on s'agace. Il y en a plein qui m'appellent au milieu du livre en me disant « je suis agacée, l'antagoniste m'énerve ». Des fois, l'héroïne aussi, j'ai envie d'intervenir dans le livre. Et puis à la fin, on est quand même un peu apaisé.
Ouais, non, mais c'est positif, ça veut dire qu'ils sont vraiment dans l'histoire. Et justement, vu que c'est une histoire qui est quand même très personnelle et liée à toi, est-ce que tu as eu des doutes par rapport à la publication de ton livre? Dis-nous un peu comment ça s'est passé, comment tu as pu passer au-dessus de ces doutes, ou s'il n'y en a pas eu du tout.
Alors, quel auteur n'a pas de doute lorsqu'il doit publier son premier livre? Déjà, est-ce que les gens vont aimer le livre? Est-ce que un éditeur va me suivre? Comment ça va se passer? Et donc effectivement, on est stressé de savoir si on va réussir à éditer. Moi, je suis contente, j'ai trouvé rapidement un éditeur qui a cru en moi et je n'avais pas la patience d'attendre des mois. Par contre, quand il m'a dit « c'est bon, votre livre est prêt de publier », eh bien là, il y a eu la seconde phase. Mais mon Dieu, les gens vont devoir le lire.
Oui, les retours,
et surtout des gens que je connais. Et en fait, c'est là où ça m'a vraiment, vraiment stressée et paniquée. Et j'avais même du mal à être contente. C'est que j'avais pas tant de problèmes que des gens qui ne me connaissent pas lisent mon livre, mais c'était mes proches. Et donc, du coup, j'ai même dit à mes proches, non, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés de l'acheter, vous n'êtes pas obligés de le lire. Je disais pas quel était le sujet du livre. Et ben, c'est eux qui l'ont acheté en premier, forcément.
Bien sûr, ils veulent voir, je pense aussi, mieux te comprendre. À travers ce livre, parce que vu qu'on a accès à tes émotions, tes sentiments et ton expérience de vie, ils veulent mieux te comprendre. Et je pense que c'est pour ça que c'est les proches qui achètent en premier, et aussi c'est le premier soutien. Sur ce podcast, on lit beaucoup. Est-ce que toi, justement, tu te considères comme une grande lectrice ou pas du tout ?
Alors, je suis née dans les livres parce que quand j'étais petite, on n'avait pas Internet. Hein. Je suis un peu plus vieille que toi ici. Hein. Je m'ennuyais beaucoup dans ma Picardie natale et du coup, j'ai dévoré la bibliothèque. Donc, j'ai eu des phases où j'ai beaucoup, beaucoup lu et j'alterne avec des phases où j'écris. Et c'est vrai que dans les dernières années, je suis beaucoup dans l'écriture. Donc, je lis moins. Et ça me manque d'ailleurs. Mais c'est difficile. Comment on fait pour écrire et lire en même temps ? C'est le grand dilemme. Ouais. De l'écrivain passionné de lecture.
je pense, parce que l'écriture demande beaucoup, beaucoup de temps. Et lire, quand même, prend du temps. Donc, je comprends. Mais juste...
Et aujourd'hui, quand je commence à lire un livre, ça me donne envie d'en écrire un autre.
Ah là là. Et justement, on a fait un petit questionnaire spécialement pour toi. Du coup, c'est le « Tu préfères » spécial écriture versus lecture. Je te donne deux propositions et tu me dis plus lecture ou maintenant écriture.
Ok.
Lire ou écrire ?
Si je préfère lire ou écrire ?
Oui.
Ah, je préfère écrire, sans aucun doute.
Bon, c'est déjà quelqu'un...
Je ne peux pas vivre sans écrire, j'écris toute la journée.
Être coincé dans un roman que tu adores comme personnage secondaire ou être le personnage principal d'un livre que tu n'as jamais lu ?
Étant aventurière de nature, je dirais que je préfère être le personnage principal d'un livre que je n'ai pas lu.
Ouais, je comprends. Petit mystère et tout. Et...
Dans l'espoir que ce soit un bon livre et qu'il me plaise. Et au cas où je puisse réécrire l'histoire au fur et à mesure.
Je comprends. Ne plus jamais pouvoir relire ton auteur préféré ou ne plus jamais pouvoir relire ton propre livre.
C'est une question qui est très difficile, Laetitia, mais je dirais, et pourtant je suis une personne assez humble, mais je serais triste de ne pas pouvoir...
Relire ton livre ?
Relire mon livre, mais pas celui que je viens d'écrire. Oui, un autre livre, parce que j'essaie d'écrire le livre que j'aurais aimé lire un jour. Mmh. Et du coup, j'ai écrit un livre vraiment pour me faire plaisir.
Ah.
Voilà, et je prends du plaisir à le relire.
C'est
en toute modestie.
Non, moi je pense que ça serait relire mon auteur préféré parce que déjà écrire son propre livre, on est avec son livre, donc pas besoin de le relire 36 000 fois. C'est mon avis.
Ça dépend si tu penses que ton livre est fini ou qu'il n'est pas fini.
Qui finit jamais.
Et qui ne finit jamais. C'est le problème du perfectionniste.
C'est vrai. Publier un roman que tu trouves imparfait mais que tout le monde adore ou écrire le livre parfois toi-même mais que personne ne lit.
Alors, sans aucun doute, Laetitia, écrire le livre parfait pour moi que personne ne lit. Et je me dis que peut-être un jour, après ma mort au moins, ils se rendront compte que le livre était passionnant. Mais sans aucun doute.
Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut écrire pour soi. Il faut écrire des choses qui nous plaisent à nous. Et le regard des autres, on s'en fiche. Après, on peut en vivre, c'est cool. Mais d'abord, il faut que ça plaise à soi. Parce que vu qu'un livre, c'est une partie de soi... Autant s'aimer.
En fait, j'essaie de faire des choses qui me ressemblent. Et c'est vraiment le travail que j'ai essayé de faire dans « On s'était dit rendez-vous au paradis ». J'ai essayé de ne pas faire un énième livre sur la violence conjugale, mais de faire un livre qui me ressemble et au milieu de laquelle il se passe des mésaventures.
Ok. Écrire un livre avec un stylo plume ou écrire uniquement à l'ordinateur ?
Encore une fois, question très difficile. Pour qui a commencé à écrire à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur ? Mais aujourd'hui, je travaille dans l'informatique et je tape très très vite. Et quand j'écris, je peux rester 8 heures d'affilée, pratiquement en me levant que pour aller aux toilettes. Donc je dirais sur mon ordinateur et avec un stylo au cas où, pour les moments, on peut pas ouvrir son ordinateur. Okay. Genre dans la rue, dans le métro.
Si t'as une idée qui arrive, t'as un petit bloc-notes et tu la notes.
Exactement, j'ai toujours un bloc-notes et si j'ai pas stylo, j'ai l'enregistreur de mon téléphone.
Ah, top!
Ouais. J'écris des morceaux de mon livre en dictaphone.
Ah, bien. Petite astuce si vous voulez faire la même.
Voilà.
Découvrir la fin d'un roman en avant-première, spoil total, ou inventer toi-même une nouvelle fin à chaque fois.
Je préférerais avoir la fin en avant-première, parce que j'aime être surprise.
Oui. Je comprends. Qu'un personnage de ton livre prenne vie pour une journée ou entrer dans un roman que tu adores le temps d'un chapitre.
Encore une fois, une question très 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 difficile parce que mon livre préféré est un livre dans lequel j'aurais voulu vraiment pénétrer, mais j'ai aussi écrit un autre livre avec des personnages que je rêverais de rencontrer. parce que j'ai vécu avec eux des centaines d'heures en les décrivant. Donc je dirais quand même que je préfère rencontrer les personnes que j'ai créées.
Oui, mais
et
moi,
qu'elles me donnent la vie sur mon livre.
Moi, je pense que ouais, je préfère que du coup une personne, un personnage devienne prenne vie pour une journée, parce que je pense que si je rentre dans un roman seulement pour un chapitre, je détruis le chapitre. Tellement je suis un bazar ambulant.
Je pense que
le chapitre ne sera plus jamais pareil. Donc on va éviter ça. Autant que je passe un bon moment avec un personnage qui n'existe pas.
Tu as raison, Lisa. Je ne voudrais pas porter malheur au chapitre.
Exactement. On va repasser à une série de questions. Du coup, comment s'est passée ton expérience d'écriture, plutôt fluide ou laborieuse ?
Bah, je dirais plutôt fluide. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai écrit la première phrase, que j'ai pris plusieurs années à trouver.
Déclic.
C'est ça qui est paradoxal. J'ai recommencé à écrire le début du livre plusieurs fois. Donc je dirais plutôt une fois que j'ai passé la première page, et ben tout de suite tout m'est venu, toute l'histoire m'est venue, et je l'ai écrite sans faire de plan, sauf que je l'ai écrite d'abord en version synthétique, et après au fur et à mesure j'ai pris chapitre par chapitre et j'ai étoffé chaque chapitre.
Je vois. Non, c'est compréhensible, t'étais la ligne d'arrivée. Un point fixe et la ligne d'arrivée.
Voilà, et j'ai disparu plusieurs semaines aussi. On m'a pas... Et je ne répondais plus au téléphone.
Vraiment une future écrivaine, quand même.
Ah non, mais quand je suis inspirée, j'aime pas qu'on me dérange.
Et du coup, c'est un livre que tu avais en toi depuis longtemps, en vrai. Et dès que tu as trouvé, on va dire, la première phrase, c'est parti.
En fait, ce qui est amusant dans le livre, en tout cas pour les gens qui me connaissent, c'est qu'en fait, c'est plein d'anecdotes et en fait, je parle le livre. J'ai écrit le livre comme je parle. Et c'est pour ça que ça se lit assez vite. Parce qu'en fait, c'est plein d'anecdotes que j'avais l'habitude de raconter et d'autres que j'avais jamais racontées à personne. Et donc, du coup, ça a été l'assemblage de toutes ces anecdotes que j'avais l'habitude de raconter.
Très bien. Et du coup, tu as une petite routine ou un rituel particulier quand tu écris ou pas du tout ?
Si j'ai pas d'impératif professionnel ou personnel, je commence à écrire à peu près 5 minutes après que je me sois levée.
Ah ouais ?
Voilà, c'est immédiat. Dès que je me lève, et j'adore voilà, la minute où je me lève, je sais déjà ce que je vais écrire toute la journée. Et si on m'interrompt, je reprends. Et en général, je m'arrête quand j'en peux plus et que j'ai envie de dormir. Et je me suis endormie plusieurs fois avec l'ordinateur dans le lit.
Tu manges quand même ou même pas ? Elle mange pas, j'ai la réponse.
Vous savez, les gazpacho et les soupes, c'est génial parce que tu bois et tu manges en même temps.
Quel auteur ou livre t'ont inspiré justement dans ton parcours et afin d'écrire ?
Alors, ce qui est difficile, c'est pour ça que je ne peux pas non plus toujours être dans des phases de lecture, c'est que les livres m'inspirent beaucoup. Alors, l'un des premiers livres qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, ça a été L'étudiant étranger de Philippe Laborot. Il partait vivre aux États-Unis et en fait, 6 mois plus tard, je partais 1 an vivre aux États-Unis. Donc, c'est vraiment, c'est plus que de l'inspiration. Après, j'ai lu Sida Gideos, donc La Cité des Dieux. Alors, il y a le film, il y a la série, mais il y a le livre. L'un des livres les plus trash que j'ai jamais lu. Heureusement que je ne comprenais pas tous les mots en portugais à l'époque. Parce qu'il y avait tellement de choses horribles. Voilà, donc je l'ai lu. Et donc j'ai vécu à Rio de Janeiro. Et je suis allée dans plein de favelas très dangereuses. Voilà, je suis allée jusqu'au bout de l'exploration de ce thème. Et quand j'étais à Rio, j'ai lu un livre mais que j'ai adoré. J'ai lu 3 fois d'affilée, puis après j'ai lu les suites. C'était L'ombre du vent, A Sombra do Vento. C'est de Carlos Ruiz Zafón. Et c'est un livre qui se passe à Barcelone. Ça nous plonge un siècle en arrière, dans un univers de bibliothèque complètement féerique. Et dans le monde des livres, et le monde des livres se mélange avec le monde réel, dans une course-poursuite dans Barcelone. Et là, je me suis mise à travailler pour une start-up de Barcelone et on m'a proposé un travail à Barcelone. Et là, j'ai pris ma famille et on est parti, on déménageait à Barcelone. Donc, voilà, moi, les livres.
Ne jamais offrir à Alexandra un livre sur un pays parce que 6 mois après, on risque de la retrouver là-bas.
Exactement, voilà. Donc, voilà, ce sont des livres qui m'ont beaucoup influencée parmi d'autres.
Et du coup, si tu devais conseiller une lecture qui résonne avec ton livre, ça serait laquelle ?
Alors, mon livre, c'est un petit peu un ovni, je pense. Alors, c'est assez difficile comme question parce que j'ai essayé d'écrire un livre qui est un mélange des genres, parce que je suis un mélange des genres. Du coup, voilà, je mélange aventure avec poésie, chanson, tristesse, douleur, autothérapie. Mais je dirais, moi, dans mon sentiment, un peu un mélange de La Plage, qui était un livre avant d'être un film, de Jamais Plus et de La Cité des Dieux. Donc trois genres qui n'ont rien à voir et qui se regroupent voilà, avec un petit air de poésie.
Non, c'est bien, c'est un bon mélange. C'est une parfaite fiction avec une touche de magie.
En tout cas, c'est des livres auxquels je pensais quand je vivais l'expérience qui est dans le livre.
Je comprends. Ensuite, on enchaîne avec un questionnaire, mais vraiment sur ton livre. C'est le questionnaire du paradis.
Ah, le paradis, parlons-en du paradis.
Let's go. Si le paradis avait une odeur, ça serait laquelle?
Alors, pour moi, si tu m'avais posé la question, Laetitia, il y a 5 ans, je t'aurais dit, pour moi, le paradis, c'est l'odeur de l'humidité chaude, quoi. C'est cette odeur que quand je sors de l'avion, que j'arrive en Afrique ou en Amérique du Sud, dès que la porte s'ouvre, je sens le chaud avec la mer et cette espèce de, voilà, d'énergie complètement folle dans l'air qui m'électrise. On ne sait pas si elle est positive ou négative. Et voilà, ça, c'était pour moi, c'était l'odeur du paradis. Si tu me demandes aujourd'hui, Laetitia, après cette expérience racontée dans les livres, je dirais que pour moi, l'odeur du paradis, c'est la plus humide le matin. Voilà, c'est la rose légèrement mouillée à 6h du matin, avec une petite effluve de café derrière et l'odeur de mes enfants.
Oh, c'est mignon. Non, mais j'approuve. Si tu pouvais y croiser un écrivain disparu, qui ça serait?
Platon.
Platon? Pourquoi?
Alors, bah déjà parce que Platon, c'est les premiers livres que j'ai lus quand j'étais petite, c'était Platon et Racine. Donc j'ai hésité quand même à dire Platon et Racine. Racine, j'ai juste trouvé que c'était magnifique comment il parlait, je voulais parler comme lui un jour. Et Platon parce que j'adore Socrate et je suis fascinée par la vie de Socrate, parce qu'a dit Socrate, par qui était Socrate, comment est mort Socrate. Et j'aurais trop aimé que Platon me raconte toutes les anecdotes.
Sur sa vie.
Sur sa vie.
Et vu que Socrate n'a pas écrit.
Bah oui, sinon j'aurais dit Socrate, mais pauvre. J'aurais aimé savoir pourquoi Socrate n'a pas écrit lui-même.
Peut-être qu'il savait pas, il avait la flemme. Moi, je pense qu'il était plus occupé à discuter avec les gens que de prendre le temps pour écrire.
Et moi aussi, je pense.
C'est mon avis. Si le paradis était une saison, ça serait laquelle?
La fin du printemps. Je sais pas si on aura à dire la fin, je veux toujours donner des adjectifs. Mais le printemps, ouais. Parce que le printemps, c'est l'espoir, c'est le renouveau, c'est la fraîcheur avec le soleil, c'est le bonheur de ce qui va arriver derrière, sans la nostalgie.
Oui.
C'est la satisfaction qui va se passer, donc du coup tu te sens fort. C'est la saison qui m'a le plus manqué quand j'étais à l'étranger. C'était le printemps, quoi. Cette odeur magnifique des fleurs
qui poussent.
Qui poussent et des fruits qui vont arriver.
Et sinon, la dernière question. Et toi, où aimerais-tu donner rendez-vous? Ton petit paradis.
J'aimerais donner rendez-vous à la maison avec mes enfants, parce que c'est eux mon paradis.
Une vraie mère maintenant.
Bah, c'est ce que je disais toujours. Moi, j'ai toujours cherché l'endroit. Le paradis, pour moi, c'était un endroit dans lequel j'amenais les gens. Et en fait, je rejoins Sartre à l'opposé. Il disait toujours, l'enfer, c'est les autres. Et cette phrase a beaucoup résonné dans ma vie. Oh, mon Dieu, j'ai déjà été au paradis en me sentant en enfer. Et je me dis, l'enfer, c'est les autres. Et du coup, le paradis, bah, c'est les autres. Donc le paradis, c'est mes enfants, c'est mes parents, c'est les gens que j'aime, mes amis, voilà, c'est eux mon paradis. Et du moment qu'ils sont avec moi, j'ai déjà été heureuse dans des endroits qui ne ressemblaient pas au paradis et malheureuse dans des endroits paradisiaques. Donc tout ça, c'est...
Je vois. Moi, je pense que le paradis, c'est les souvenirs. Les souvenirs qu'on a créés avec les gens sur un instant T. Et du coup, quand on se remémore, c'est la petite définition du paradis qu'on peut avoir. C'est pas forcément un lieu, un endroit.
Moi, c'est une émotion. C'est quelque chose que je ressens dans mon cœur. Quand je vois toutes les choses que j'aime autour avec les gens que j'aime et que je me dis que je suis en sécurité, je suis aimée, que je ne cours aucun risque, et ben ce sentiment, pour moi, c'est ça le paradis. C'est ce sentiment.
Non, je comprends. Et du coup, maintenant, quels sont tes futurs projets? Un autre livre ou t'en as fini avec l'écriture? Je ne pense pas.
On n'aurait jamais fini avec l'écriture et je compte bien écrire jusqu'à ce que la fin de ma vie, jusqu'à ce que je sois encore capable de tenir un stylo ou de pianoter sur des touches ou de parler à un dictaphone. Donc voilà, vous allez encore entendre parler beaucoup de moi. Laetitia, bah, depuis, j'ai écrit un livre trois quarts, voilà, que je compte publier dans les prochains mois. Et aussi, j'ai une autre passion, c'est le futur. C'est ma vision du futur de l'humanité, du futur de la France. Et j'ai écrit mon premier livre, qui était un livre plutôt philosophico-politique, en 2021. Et je l'ai remis à la goutte du jour et je fais le tour des ministères. Je suis à la Matignon aussi, il n'y a pas longtemps. Et je remets ce livre et nouveaux rapports que j'ai écrits depuis sur les dysfonctionnements de la justice, des femmes, mais aussi sur l'éducation, tous les thèmes y passent. Tout est lié. C'est-à-dire qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui passe des messages et qui essaie de les passer de plein de manières. Dans le livre que j'ai écrit,
les actions,
voilà, je ne parle pas juste de violence et de voyage, je parle aussi de politique, de société, de vision. Et ce que je voudrais aussi qu'on retienne, c'est ça. C'est la personne qui a derrière ce qu'elle vit, sa vie personnelle, elle a des combats. Et ces combats, j'essaie de les mener pour de vrai, dans la vraie vie. Donc voilà, j'essaie de jongler entre le monde littéraire, le monde des idées et le monde réel.
Non, c'est bien, c'est très intéressant et on te souhaite plein de succès pour toutes ces aventures et on les suivra avec passion. On finit toujours le podcast par la question que tu as pour moi et le livre que tu aimerais absolument que je lise, à part du coup le livre que tu viens de sortir ou même un autre que tu vas sortir.
Ah mince, j'allais te proposer de lire un autre livre que j'ai écrit. Écoute, c'est très bien. Alors moi, j'ai une question avant tout. J'ai une question pour toi. Déjà, je te félicite pour ton travail. Je trouve que c'est vraiment une super idée d'interviewer les auteurs, la manière dont tu le fais. Et j'aime beaucoup ton regard jeune et décalé. Et je voudrais savoir bah, justement, qu'est-ce que tu aimes autant dans le fait d'interviewer des auteurs ou des passionnés de littérature? Qu'est-ce qui te donne autant de plaisir?
Ok, alors, qu'est-ce qui me donne du plaisir? C'est déjà prouver aux gens qu'ils sont tous capables d'échanger, de parler de ce qu'ils aiment, de la lecture, etc. Parce que le problème, les gens qui lisent souvent sont considérés comme réservés, discrets et ils n'osent pas forcément parler de ce qu'ils aiment. Et donc justement, j'ai reçu plein d'invités différents qui ont quand même cette certaine réserve et d'avoir un peu cette discussion, ça montre qu'ils sont tout à fait capables de faire ce genre de résultats. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup, on va dire, prouver aux gens de choses qu'ils pensent pas être capables de faire et justement qu'ils sont capables, mais tout en prenant du plaisir. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de proposer quelque chose de dynamique, sympathique et surtout que la personne en face de moi se sente à l'aise pour justement se livrer, mais dans un cadre tout à fait chaleureux. Et c'est ce que j'aime et j'espère que vous allez ressentir ça à travers ce podcast. Ma passion, c'est la lecture, donc j'aimerais absolument essayer de la faire partager parce que malheureusement, on lit de moins en moins, on regarde de plus en plus de films, même si les films sont tirés de livres. Mais bon, je trouve que c'est toujours bien de travailler sur cet imaginaire et tout. Et aussi, le fait de pouvoir recevoir des auteurs, c'est une chance pour moi parce que ça montre toute leur démarche, d'où leur viennent leurs idées. Et j'essaye justement de vous inspirer un maximum avec soit des recommandations, des idées de projets. Et si vous avez envie de vous lancer, d'écrire, faut y aller. Moi, je me suis réveillée un matin, j'ai dit je crée un podcast. 3 jours après, j'avais le micro. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye d'inspirer dans ce podcast. Et j'espère que ça vous plaît et on continuera.
Et tu le fais très bien, Laetitia.
C'est gentil. Donc, le livre que tu aimerais que je lise?
Alors moi, je pensais à un livre très spécial. Je ne sais pas si tu l'as lu, Au nom de tous les miens.
Non.
C'est de Martin Gray. C'est un livre qui m'a marqué puisque j'en parle jusqu'à aujourd'hui. J'ai lu quand j'avais 16 ans. À cette époque, je lisais beaucoup de témoignages et c'est l'histoire d'un homme qui a vécu beaucoup de tragédies dans sa vie. Il a vécu la tragédie des camps de concentration. Il a perdu toute sa famille. On est hyper heureux pour lui parce qu'il remonte sa vie, il reconstruit ses rêves, il se refonde une famille. Et un drame horrible, un autre drame vient bouleverser son existence et il repère à nouveau tout et tout le monde. Et ce livre, j'en ai pleuré pendant des semaines, je l'ai conseillé à des dizaines de personnes. Mais en fait, ce livre m'a toujours accompagné parce que dans tous les pires moments de ma vie, je me suis toujours dit, il n'y a pas pire histoire que la sienne. Et lui, il est resté vivant.
Donc si lui est resté vivant, tout le monde peut
le faire.
Voilà,
tout le monde peut le faire. Un vrai antidépresseur quand on lit ce livre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tombent en dépression des fois, les gens ils n'y arrivent même pas de drame, ils n'arrivent pas à se remettre de petites choses de la vie, lisez au nom de tous les miens. Mm. Vous n'oserez plus jamais vous plaindre.
Non. Ouais, je pense qu'un des secrets de la vie, c'est relativiser.
Voilà,
et se dire qu'il y a
ça.
Toujours pire que soi et que ça va le faire quoi qu'il arrive. D'avoir un minimum confiance et être positif. Après, moi, je suis quand même aussi assez sentimentale, émotionnelle. Donc, il faut que je me prépare psychologiquement avant de lire ce type de livre. Mais je le ferai avec un grand plaisir et je te dirai mon avis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Ça me touche énormément. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être même envie d'écrire. C'était l'idée. Et n'hésitez pas, du coup, à aller découvrir le livre d'Alexandra. Cette formidable aventure avec une belle touche de positivité à la fin. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt avec plein de nouveaux thèmes, de nouveaux invités. Et surtout, n'oubliez pas de lire. Merci.